J'ai vraiment eu un ras-le-bol et un « ok, j'arrête ». Tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est plus moi, tout ce que je ne veux pas être, je l'arrête et je reprends, je réapprends, je me reconnecte à toutes mes vraies valeurs, à tout ce que je suis vraiment, et j'y vais. Et je l'ai vraiment senti comme ça, comme une renaissance, comme une reconnexion à vraiment qui j'étais, et ça a débouché en plus sur des choses magnifiques. Je crois qu'en fait, je souligne un truc très important, c'est vraiment suivre son intention et surtout ne pas vouloir être quelqu'un d'autre juste pour fitter dans la société ou juste pour essayer d'être comme les autres et se reconnecter vraiment à tout ce qu'on est, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir accomplir tous les challenges qui nous attendent en tant que personne.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com, et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Anouk.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Eh bien écoute, merci à toi d'être présente. Je pense que cet épisode va être vraiment intéressant et tu vas en inspirer plus d'une également. Rapidement, je vais te présenter, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es originaire de France et du Canada, tu es passionnée de sport depuis toute petite. Depuis 2018, tu es diplômée d'État comme coach sportive, tu es aussi instructrice de pilates et de yoga, fondatrice de Body by Anouk, une méthode bien-être 360 basée sur le pilates dynamique mixant d'autres activités sportives pour une santé optimale, via notamment un studio de cours en ligne accessible sur abonnement mensuel ou annuel. Tu as plus de 300 cours aujourd'hui et plus de 20 programmes. Tu es considérée comme le Netflix du bien-être. Body by Anouk, c'est aussi une communauté de plus de 3000 membres actifs, plus de 20 000 transformations cumulées. Et à côté de ça, en parallèle, tu es aussi mannequin, comédienne, influenceur, avec plus de 260 000 abonnés cumulés sur tes différents réseaux sociaux, et tu as collaboré avec des grandes marques du monde entier. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tout ça s'est passé relativement rapidement, parce que le Covid, durant cette période, il y a eu un avant-après, il y a eu un tournant, et c'est là que tu as justement démarré et créé ton activité en ligne, ton business, qui aujourd'hui prend vraiment une belle ampleur, de par ta présence sur les réseaux et de par la qualité aussi du contenu que tu délivres au quotidien. Du coup, je vais commencer par le commencement. Ma première question, c'est que finalement, avant d'être dans le fitness, tu suis des études de communication et lors d'un stage à Montréal, tu réalises rapidement que ta voix n'était pas forcément dans ce domaine. Quel a été le moment précis où tu as eu ce déclic et comment tu as fait cette transition vers le fitness et le monde du coaching?
Je dirais que c'est quelque chose qui s'est fait de façon assez naturel, mais en même temps aussi un petit peu inconsciemment. En fait, le sport, comme tu l'as justement dit, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie, qui fait partie de ma vie depuis vraiment mon plus jeune âge. J'ai la chance de venir d'une famille très sportive, donc j'ai fait du sport vraiment depuis toute petite, ce qui m'a conditionnée positivement après pour le reste de ma vie. Mais en revanche, c'était pas du tout chez moi quelque chose qui pouvait être un métier, qui pouvait être une carrière, tu vois, c'était plutôt un passe-temps, un hobby. Alors bien sûr, parmi mes deux sports passion, on va dire la danse classique et l'équitation, c'est des choses qui ont presque été faites professionnellement parlant, on va dire en semi-pro à un moment donné de mon adolescence. Mais hormis ça, il n'y avait pas du tout ce concept de d'être coach sportif, d'être. C'était limite un petit peu mal vu, tu vois, à notre époque. Même si je pense qu'on n'est pas tous les deux très très âgés, mais disons que à notre époque, du moins, c'était pas forcément une carrière pensée. Soit t'étais manager d'athlète, soit tu étais prof de PS, mais il n'y avait pas trop cet entre-deux, donc pas vraiment de carrière envisagée dans le sport. Et en fait, ça m'a toujours accompagnée durant mes études, ça a toujours été ma passion, mon échappatoire, ma manière aussi de rester motivée, de rester rigoureuse, disciplinée, même dans le reste de ma vie, ça revenait toujours au sport, au mouvement. Et en fait, en faisant justement ces études de communication, qui étaient en plus un petit peu des études par défaut, puisque j'avais un rêve, c'était celui d'être journaliste. Je voulais faire des études de journalisme. Et en fait, ces études-là, il faut faire souvent un bac plus 3, quelque chose comme ça, pour ensuite pouvoir postuler au concours des grandes écoles. Donc moi, finalement, en faisant quelques erreurs de parcours, je me suis dit, bon, allez, je vais faire de la com. Ce qui, en plus, le destin fait bien les choses, puisque finalement, c'est quelque chose qui m'a relativement aidée et qui m'aide aujourd'hui dans ma propre communication personnelle au jour le jour. Mais du coup, durant ces études, durant ces stages aussi, qui me passionnaient vraiment pas beaucoup, je dois avouer, je passais de plus en plus de temps à la salle de sport, de plus en plus de temps à faire du sport. C'est une passion qui était de plus en plus dévorante. Et en fait, c'est un petit peu chemin faisant, tu vois, je m'ennuyais de plus en plus, et de l'autre côté, j'avais cette passion qui est de plus en plus grandissante. Et il y a eu quand même un moment un peu déclic, comme tu le dis, ça porte bien son nom, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé du coup dans ma vie. Donc, dans ce fameux stage au Canada, qui est du coup le dernier stage que j'ai fait dans mes études de communication, je me suis dit, ok, ça peut plus durer, je prends des mauvaises décisions, je prends pas le chemin qui va m'épanouir, si je continue comme ça, je vais vraiment passer à côté d'une vie, clairement, et il faut que je prenne la décision d'aller vers quelque chose qui me parle beaucoup plus. Et là, à cet instant-ci, j'avais pas du tout encore eu le... Comment dire, je m'étais pas mise sur le chemin encore du coaching sportif. Par contre, je voulais aller explorer ces voies-là. Et c'est en rentrant en France, suite à cette dernière année d'études en communication, que j'ai fait des rencontres qui m'ont amenée justement vers le chemin du coaching sportif. Et ça a été une des meilleures décisions de ma vie, puisque ensuite, il s'est passé un milliard de choses qui ont fait que ça a été encore plus exceptionnel que ce que je pensais. Mais voilà le premier déclic et le premier passage de la com versus finalement mes premières passions, mes premiers amours qui étaient vraiment le sport, le mouvement, le bien-être dans son ensemble.
Tu mets ici en exergue quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est cette prise de conscience du fait que tu es en train d'être sur un chemin qui n'est pas forcément le tien ou tout du moins celui qui va le plus t'épanouir. Et cette prise de conscience, c'est une prise de conscience que j'imagine bon nombre de personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont eu ou tendent à avoir. Et lorsque tu l'as, ça demande quand même une certaine dose de courage, d'oser peut-être aller à l'encontre de ce qu'on a appris, à l'encontre de ce pourquoi notre entourage aussi, nos proches, nous ont dit qu'on était bon et qu'on devait faire plus tard. Et puis en plus, aller dans une voie qui peut paraître floue peut-être, inconnue et autres. D'où est-ce que, dans ton cas, tu as trouvé ce courage, tu as trouvé cette capacité? Est-ce que tu as eu du soutien spécifique dans le cadre de ta famille, de tes amis, de ton entourage? Est-ce que autour de toi, tu avais des gens qui ont osé changer de route, de trajectoire de vie à un moment donné et tu t'es dit « Ah, j'ai aussi, moi aussi, envie de pouvoir faire ça » ou des entrepreneurs en particulier autour de toi?
Alors c'est vrai que je sais pas exactement d'où ça me vient, mais je pense que c'est un mix de éducation, des parents aussi extrêmement bienveillants, extrêmement aussi ok avec les changements, avec les recherches justement de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, et aussi de nous accompagner mon frère et moi dans ces différents peut-être changements de vie. Mais c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir cette force de caractère. Je pense aussi qu'elle a été créée de par cette pratique sportive assez intense, assez rigoureuse depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours eu cette chance de me dire ok, je veux changer, je veux faire ça, et j'y vais. Et je crois que c'est une chance. Je crois que c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé au fil des ans, et c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur, tu vois. L'inconnu, le fait de prendre une décision radicale, le fait par exemple de devoir prendre plein de petits boulots pour essayer d'économiser pour des futurs projets, c'est des choses en fait que j'avais vraiment ancrées en moi, cette envie d'indépendance, cette envie de création, cette envie vraiment aussi de vivre une vie pleinement, on va dire, que je vis à fond, que je vis dans toutes les histoires, toutes les aventures que cette vie pourrait m'apporter, et surtout de pas passer à côté de celle-ci. Et j'ai pas vraiment de modèle autour de moi justement au niveau entrepreneurial. C'est pour ça d'ailleurs que par la suite j'ai beaucoup appris seule et que j'ai fait beaucoup d'erreurs, que j'en fais encore aujourd'hui, mais que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un autre chemin et long, semé d'embûches, mais passionnant. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une chance, et je pense que beaucoup de personnes effectivement ont souvent cette peur de sauter le pas, de se dire ok, je suis peut-être coincée dans des études ou dans un schéma de vie, dans un métier, dans quelque chose qui ne m'épanouit pas. Et pour autant, la vie professionnelle, c'est pas forcément celle qui est censée t'épanouir le plus. Tu peux avoir des passions à côté qui t'épanouissent encore plus et tu trouves ton équilibre comme ça, mais parfois malheureusement il y a ni l'équilibre d'un côté ni de l'autre. Et moi, j'ai jamais voulu rester coincée dans quelque chose qui me plaisait pas, et j'ai toujours aussi cette envie de développer, d'avancer, de progresser, de travailler sur moi, aujourd'hui de travailler sur mes business et d'avoir plein de... Ouais, vraiment d'avoir cette vie un peu passionnante, un peu frémissante, tu vois, d'être toujours au bord limite d'un précipice. En fait, je pense qu'on devient même accro à cette sensation. Tu dois aussi, je pense, avoir ce côté-là par rapport à l'entrepreneuriat. On est toujours un peu au bord d'un gouffre et en fait, non, hop, on saute et on continue d'avancer. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi et que j'adore et que je continue de travailler.
Ouais, c'est vraiment le fait de se dépasser, le fait de voir le progrès, l'évolution, toujours pouvoir aller plus loin dans la discipline qu'on pratique et finalement discipline que tu as acquise grâce au sport en partie et puis discipline que tu continues mais que tu déportes maintenant sur l'entrepreneuriat en partie.
Exactement.
Ouais, c'est super intéressant et du coup, je reviens sur le parcours. Donc petit à petit, tu te spécialises, enfin, tu es à fond dans le sport, tu te cherches, etc. Puis tu te spécialises sur le Pilates et le yoga.
Exactement.
Qu'est-ce qui t'a spécifiquement attiré vers ces disciplines et comment est-ce que ça a influencé ta perception du bien-être physique et mental ? Parce que c'est aussi ces deux dimensions. Mm-hmm. Finalement, ce n'est pas juste avoir un corps, mais c'est aussi juste avoir un corps et un mental et faire en sorte que l'un aille avec l'autre.
Oui, absolument. En fait, c'est vrai que moi, mes deux sports de prédilection, donc c'était la danse classique et l'équitation. Et la danse classique, je l'ai pratiquée à presque semi-pro, puisque j'avais aussi un autre de mes rêves qui était de devenir danseuse pro. Et j'avais une superbe prof qui nous a fait faire du pilates durant nos années un petit peu plus intenses, là où on préparait les concours des grandes écoles, etc. Donc j'avais déjà eu un petit peu ce côté... pluridiscipline et aussi cette importance vraiment de pallier certains déséquilibres que tu peux créer en pratiquant un sport particulier, vraiment avec beaucoup beaucoup d'intensité, beaucoup de rigueur, etc. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu aussi ancré en moi inconsciemment quand j'avais 10-11 ans et quelque chose ensuite que j'ai continué à chercher et que j'ai continué à créer dans ma propre pratique par la suite. J'ai eu une phase honnêtement très salle de sport, très fitness, musculation. Alors aujourd'hui ça paraît étrange, j'ai l'impression que c'était une autre personne, mais finalement c'est aussi tout ça qui fait que ça construit ce qu'on est aujourd'hui, c'est tous les chemins qu'on emprunte à un moment donné de notre vie. Donc j'ai eu quelques années vraiment intenses à fond salle de sport où je poussais très lourd, je poussais 100 kilos en squat, etc. Donc clairement je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui, mais j'avais quand même ce côté, ok, il faut que je continue de travailler ma souplesse, ma mobilité, mon cardio, ma force, mon endurance, vraiment d'avoir cette complémentarité et aussi cette complémentarité, comme tu l'as dit très justement, et pratique physique et pratique mentale, quelque chose que j'ai beaucoup plus accentué aussi par la suite, avec autant travailler sa santé mentale, que ce soit méditation, respiration, des pratiques un peu plus 360, holistiques. Et en fait, donc pour devenir coach sportive, en France, tu passes à un BPJEPS, c'est pour être diplômé d'État et avoir le droit de travailler en salle de sport, en ligne, etc., de façon légale et sécuritaire. Et donc de toute façon, ce diplôme, il est très très ancré, c'est comme un bac si tu veux, c'est comme un diplôme un petit peu de base, donc il est très ancré, musculation, méthode de musculation, anatomie, système hormonal, etc. Donc c'est très vraiment la base dans tout ça, puis après ensuite toi tu creuses et tu fais ton chemin aussi vers peut-être d'autres formations complémentaires. Donc moi ça a été par exemple le Pilates que j'ai adoré, donc j'ai fait une formation de 600 heures par la suite pour vraiment être... certifié et puis vraiment voir les choses dans le détail. Et donc il y a vraiment eu aussi ce premier avant-après où j'ai une pratique très intense, très axée salle, très axée musculation, mais aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup de... j'ai travaillé en salle de sport aussi, à domicile, etc. Donc de plein de façons différentes. Et là c'est vraiment... tu vois plein de corps différents, plein de façons d'enseigner aussi, plein de façons de transmettre ton savoir, t'apprends beaucoup. Donc c'était vraiment des années très très intenses et très 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 importantes dans mon parcours. Et puis ensuite, il y a eu vraiment petit à petit ce glissement. J'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus 360 et de beaucoup plus aussi amener les gens à se dépasser, mais pour vraiment les bonnes raisons, c'est-à-dire pour qu'ils aient une santé optimale, mais à vie, c'est-à-dire c'est pas... je te vendrai jamais des résultats en 30 jours pour que tu aies des abdos cet été à la plage, mais c'est plutôt, ok, on aura peut-être des abdos, mais surtout, tu vas réussir à être bien dans ton corps, au niveau énergie, au niveau fatigue, au niveau humeur, vraiment au niveau mobilité, au niveau plein de choses, tu vas pouvoir ramasser des choses qui sont lourdes sans te faire mal au dos, vraiment toutes ces petites choses qui sont pour moi primordiales et qui vont faire en fait que tu vas être en superbe forme toute ta vie, parce que effectivement, quand on a 20 ans, 25, 30 ans, c'est peut-être pas des préoccupations, mais ensuite c'est quelque chose qui va venir, et c'est vraiment mieux de prévenir que de guérir, même si c'est jamais trop tard pour le coup de commencer n'importe quoi, que ce soit du sport ou quelconque autre activité. Et voilà en fait comment j'ai dérivé, enfin pas vraiment dérivé, mais comment j'ai voulu apporter vraiment une pluralité disciplinaire et moi dans ma façon de me former, dans ma façon de pratiquer, dans ma façon de bouger, déjà pour ma propre santé à moi, et aussi vraiment dans ma manière de transmettre, et dans par la suite aussi ce qui va devenir ma méthode Body by Anouk, qui en fait au début était quelque chose de vraiment inconscient, donc cette manière aussi vraiment de transmettre le dépassement de soi, mais avec bienveillance, avec respect du corps, vraiment pour que les gens y reviennent quotidiennement. Oui, on travaille, ça peut être intense, on peut même transpirer, et peut-être parfois non. Et puis en fait, vraiment comme ça, progresser, prendre soin de soi, et vraiment ancrer le mouvement et les habitudes bien-être qui vont avec le mouvement de façon vraiment quotidienne. Et ça va être en fait les prémices de la méthode qui va en fait s'acter quelques années plus tard, justement avec le Covid. Mais voilà le début un petit peu de l'histoire et cette envie aussi d'être très pluridisciplinaire.
Ouais, c'est super intéressant et merci. Tu inities déjà une partie de mes questions qui vont être en lien avec la méthode et comment est-ce qu'elle a vu le jour et en quoi elle consiste et dans quelle mesure elle apporte les résultats que tu peux communiquer, etc. Mais avant ça, justement, parlant de cette période où il y a ce déclic hein, finalement aussi pendant la période Covid, avec le début de la pandémie en 2020, la fermeture des salles de sport, ce qui se passe, c'est que tu as dû t'adapter quand même relativement rapidement. Comment est-ce que tu as vécu cette période de confinement en tant que coach sportive et comment cette situation a-t-elle influencé la création de Body by Anouk ?
Absolument, on a aussi vraiment là un nouveau déclic, puisque moi en fait je viens à peine d'acquérir, si tu veux, cette nouvelle liberté, ce premier chemin en fait vers le début de l'entrepreneuriat. Je commence à travailler en salle de sport, on est en 2017-2018, c'est super intéressant, mais c'est aussi déjà à cette époque-là, tu vois, je suis déjà dans encore une fois, un nouveau pas vers l'avenir, parce que déjà, je me souviens à cette époque, ok, j'ai commencé une carrière, je suis heureuse, je suis épanouie, c'est génial, c'est super, je commence enfin à trouver ma voie et aussi à, bah, concrètement, à gagner ma vie en empruntant comme ça une voie qui me passionne. Mais par contre, c'est épuisant. À cette époque, je suis auto-entrepreneur, donc c'est une sorte de semi-liberté qui, en fait, a beaucoup de limites. Je fais du 7 jours sur 7, je travaille de 6 heures du matin à 23 heures parfois. On donne énormément de cours sur les plages horaires, en fait, où les gens, les autres personnes, finalement, qui travaillent en bureau, etc., ne travaillent pas. Donc, c'est des horaires très spéciaux. Et oui, j'ai une certaine liberté, mais il n'empêche que je réponds quand même à énormément d'exigences de plein de patrons différents, donc c'est génial. J'ai pas qu'un patron, mais j'en ai plein. Et parce qu'en fait, l'auto-entrepreneuriat, c'est ça, était un petit peu à la merci aussi de tout ça. Donc déjà, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est génial, mais il va falloir que je trouve une solution pour pérenniser tout ça et aussi trouver un certain équilibre parce que ça va pas durer. Je me vois pas être comme ça. Je me vois pas faire ça pendant 10-15 ans, il va falloir creuser quelque chose. J'avais pas encore la réponse à ce moment-là, mais je me disais, ok, peut-être à un moment je vais ouvrir mes salles de sport, mes studios. Donc j'avais vraiment, tu vois, aussi, encore une fois, une volonté comme ça, un petit peu sortie de nulle part, oui et non, parce que finalement, je me rends bien compte que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée tout le long de ma vie, cette envie de creuser, comme on l'a soulevé tout à l'heure. Et là, le Covid apparaît, donc cette période un petit peu, enfin très, très spéciale en fait de nos vies. Donc on est en mars 2020, les salles de sport à Paris et un petit peu partout sur Terre ferment. Et donc je passe vraiment quelques heures catastrophiques parce que je me dis, ok, toutes les salles de sport ferment, je vais plus avoir de rentrée d'argent. Enfin, comment je vais faire concrètement? Et en fait, donc moi j'avais les réseaux sociaux vraiment un peu comme tout le monde, pour mes potes, pour mettre mes photos, mes trucs, pour mettre un peu plus des shoots de mannequinat, des trucs comme ça, où c'était un petit peu plus ma vie à ce moment-là, même si ça n'a jamais été non plus une partie extrêmement importante de ma vie, mais ça a toujours été un à côté. Et en fait, je me dis, ok, je vais commencer les lives sur Instagram de sport. Et je rends quand même ce qui appartient à César, parce que c'est une des salles de sport pour lesquelles je travaillais, qui m'a dit aussi à nous qu'on aimerait que tu fasses des lives sur notre Instagram, on pense que ça va bien marcher, etc. Donc je commence le premier live, je me souviens c'était un mardi de mars 2020, je commence ce premier live, et en fait de là, tout en fait a changé, et tout a commencé en fait vraiment de là, puisque d'un premier live il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, puisque c'était devenu vraiment cette espèce de rendez-vous quotidien, complètement fou, où j'ai commencé à créer cette communauté, et en plus c'était une période extrêmement, les gens avaient tellement besoin de contact humain, d'être rassuré, on avait besoin de trouver un sens un petit peu à cette période spéciale, donc ça a été vraiment le début de Body by Anouk, qui est le début de cette communauté extrêmement forte, extrêmement liée, où j'ai été extrêmement aussi disponible, proche, moi j'étais absolument pas influenceuse, je savais pas du tout comment, je sais pas communiquer, comment peut-être mettre des limites. Enfin, c'était complètement brut, tu vois, pur, sincère. Et c'est ça, je pense, qui a créé vraiment des bases très très fortes à Body by Anouk par la suite. Et en fait, voilà, d'un premier live, il y en a eu des dizaines, puis des centaines. Et on a été au début des dizaines de personnes, puis des centaines, pour finir à parfois 3000 personnes sur un live. Donc c'était complètement fou. Et c'est vraiment là que Body by Anouk est né, puisqu'en fait les gens se partageaient leur transformation, ou alors les horaires de live, ça a commencé à s'appeler ouais, tu fais ton Body by Anouk, ou on se retrouve sur Body by Anouk demain, etc. Et en fait, ça a été très très chouette, très naturellement lancé comme ça. Et en fait, vraiment de 24 heures complètement surréalistes, où je me dis ok, c'est un peu la fin de mon monde pour le moment, en fait ça se transforme complètement en une période incroyable, en une période super fast, où ma communauté aussi commence à s'agrandir, où je commence à avoir aussi des collaborations avec des marques. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose à créer. Et ça a continué, en fait, step by step, à se renforcer aussi au gré des confinements. Donc, moi, c'était un peu surréaliste, mais moi, à chaque fois qu'il y avait un confinement, j'étais contente, en fait, parce que je me disais, bon, allez, c'est reparti pour un tour, on repart pour faire des lives et ça va être incroyable. Et j'avais aussi un petit peu inconsciemment cette vision business, parce que je me suis tout de suite dit, ok, il va vraiment avoir un avant et un après, parce que tout le monde pensait, ouais, dès que le Covid s'arrête, dès que le confinement s'arrête, les salles vont réouvrir, tout le monde va revenir en salle, et le en ligne, les lives, etc., ça sera terminé. Et moi, je me suis dit, pas du tout, c'est des habitudes qui vont s'ancrer, il va y avoir vraiment un avant après. Et j'ai la chance d'être franco-canadienne, donc j'ai beaucoup de modèles outre-Atlantique, j'ai beaucoup aussi de modèles en Australie, etc., par exemple, de femmes qui faisaient des plateformes en ligne où c'était déjà un petit peu ancré, le sport en ligne. Nous, c'est tout nouveau en France, enfin, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas de plateforme comme ça. Et je me suis dit, ok, moi, je vais créer ma plateforme en ligne, je vais créer ma méthode, je vais la déposer et je vais en faire quelque chose, parce que en fait, j'adore ce nouveau chemin, et il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, je ne retournerai pas en salle comme je l'étais avant. Après, bien sûr, il y a eu un entre-deux, il y a les salles qui ont rouvert, j'y suis retournée, j'ai repris aussi des élèves à domicile, etc. Puis petit à petit, en fait, il y a eu cette activité en parallèle. Puis Body by Anouk a pris de plus en plus d'ampleur, donc j'ai travaillé de moins en moins en salle jusqu'à complètement arrêter. Et puis ensuite, bon, il y a eu tout un après qui est juste fou et que j'aurais aussi, pour le coup, jamais imaginé. Mais voilà le début, en fait, de Body by Anouk, qui est vraiment ce nouveau souffle aussi que m'a apporté le Covid. Donc moi, je le remercie parfois. C'est étrange, mais ouais, merci à cette période.
C'est super intéressant, parce que finalement, tu as transformé une période de tension, une période d'adversité, une période de climat qui était quand même un climat un peu incertain, en une réelle opportunité pour toi, et le tout en apportant de la valeur. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague de personnes qui avaient des talents, donc ça s'est manifesté dans le sport, mais ça s'est manifesté également dans d'autres thématiques, en francophonie, mais aussi dans toutes les langues et dans tous les continents, de gens qui ont su tirer profit de cette opportunité avec le digital, avec le en ligne. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, bah, concours de circonstances, tu fais un premier live, puis tu en fais 2, 3, 4, 10, 20, 100, puis tu crées une communauté naturellement au travers de ça, et tu continues après de le faire. Donc finalement, derrière le fait en plus que tu aies acquis en préalable toutes ces compétences liées à la communication, fait que c'est doublement intéressant pour toi, parce que tu maîtrises ce que tu fais et tu peux ensuite capitaliser dessus. Et c'est à quel moment, en fait, que tu te dis, ok, là, j'ai constitué une audience, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai attrait à ce que je suis en train de leur partager au quotidien avec mes sessions de sport en live sur Instagram ou sur X réseau gratuitement, j'imagine. À quel moment tu te dis, je veux transformer ça en business? Il y a peut-être moyen de monétiser, il y a peut-être moyen de créer quelque chose qui n'existe pas, ou façonner quelque chose qui, à mon image, conviendrait vraiment à l'audience qui me fait confiance aujourd'hui et qui me suit. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai toujours eu cette envie de créer, mais en prenant beaucoup de risques et sans forcément me dire est-ce que finalement ça va marcher, est-ce que finalement je vais pouvoir gagner ma vie avec, est-ce que finalement oui ça va valoir le coup. J'ai toujours voulu, en fait j'ai pas peur, tu vois, de me dire ok on y va, on tente et puis on verra. C'est une vision peut-être qui a évolué et aujourd'hui qui est plus la même parce que aujourd'hui on est une équipe, il y a beaucoup plus d'enjeux, mais à l'époque c'était vraiment un petit peu qui vivra verra et puis on y va, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que finalement les gens ont beaucoup plus peur de la réussite que de l'échec, parce que réussir ça veut dire énormément de choses, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire peut-être se mettre sur le devant de la scène ou prendre des critiques. Et finalement moi je crois que je suis très affranchie du regard des autres, j'ai peut-être cette chance aussi sûrement de par mon éducation et de l'amour que j'ai eu la chance de recevoir quand j'étais petite, et en fait de me dire ok, j'ai créé quelque chose, j'ai pris ces risques de, en quelque sorte, m'afficher, tu vois, tous les soirs, en live, sur Instagram, devant des milliers de personnes, de me mettre à nu aussi, un petit peu, tu vois, en quelque sorte, de vraiment accompagner les gens, direct de mon salon, de donner vraiment de ma personne, d'avoir cette approche aussi qui était peut-être très différente de ce que les gens pouvaient connaître, mais qui va finalement aussi devenir ma signature, où il y avait vraiment une activité variée, plus du fitness à l'époque, mais qui tendait déjà vers le pilates, mais vraiment de façon très variée, où les gens parfois étaient même un petit peu perplexes au début, tu vois, et finalement j'avais beaucoup de retours qui me disaient ah mais waouh, j'aurais jamais cru avoir autant de courbatures après le cours que tu nous as fait hier, parce que ça démarrait si profondément, si doucement, si tranquillement, et en fait j'étais pas du tout prête à ce que ça devienne comme ça, tu vois. Et en fait petit à petit je me suis dit ok, cette vision du bien-être, cette façon de faire bouger les gens, en fait c'est en train de devenir ma mission. En fait je me sens humainement accompli, socialement accompli, de par cette vision que j'ai envie d'apporter aux gens, et puis particulièrement aux femmes par la suite, parce que de par certaines problématiques que j'ai soulevées ensuite dans mes enseignements, c'est-à-dire le système hormonal, les abdos profonds, prendre soin de son périnée, etc. Donc naturellement, ça s'est fait aussi que j'ai de plus en plus parlé à une communauté féminine, mais pas vraiment à l'époque. À l'époque, c'était assez large. Et en fait, cette communauté grandissante sur Instagram, où tu vois, j'étais ultra présente, je répondais à des milliers de DM par jour, c'était vraiment surréaliste cette période. Et comme tu dis, le destin fait bien les choses quand même, parce que j'ai fini par lier tout ce qui avait fait partie de ma vie, donc le sport, la communication, mes différentes passions, et tout en fait convergeait un petit peu à ce moment-là, mes années aussi en salle de sport, qui finalement ont aussi été une chance, puisque bah, j'avais les diplômes pour pouvoir me lancer aussi en ligne par la suite en étant protégée, et puis savoir vraiment aussi comment transmettre l'enseignement en donnant les consignes même à travers un écran. Et ça c'est quelque chose justement qui m'a été beaucoup les gens appréciaient ça, tu vois, ils ont vraiment l'impression que je suis dans le salon avec eux, et ça c'est vraiment une des valeurs que je prône. Je suis vraiment ta coach à travers ton écran, mais c'est vraiment comme si j'étais dans ton salon, autant pour les good vibes, autant pour les corrections, les ajustements, la respiration, etc. Et en fait, cette communauté sur Instagram, pour revenir à ça, donc j'avais vraiment un Insta, je sais pas, de 1000 personnes, de mes potes, des gens que je suivais, enfin bon, je te rassure, j'ai pas 1000 potes, je vais en avoir 5, mais en tout cas, ça se crée comme ça, doucement. Et puis là, on est passé en fait 10 000, 12 000, 20 000, les confinements avançaient, et en fait, j'avais particulièrement un modèle en Australie, une fille que je suivais, qui faisait du pilates, qui s'est lancée aussi à cette période-là en capitalisant sur la création de sa plateforme. Et en fait, j'ai vraiment dit « Ok, go, je veux faire ça en France, je veux créer le Netflix du wellness autour du pilates, je veux prendre ce lead, je veux amener ça aux gens, et je veux qu'après ces périodes de confinement, que les gens continuent de conserver cette belle habitude de bouger avec moi tous les jours ou trois fois par semaine dans leur salon. » Et en fait, ça a été quand même hyper rapide avec le recul, je me rends compte, parce que j'ai lancé ma plateforme le 15 novembre 2020, alors que cette période commence en mars 2020. Donc très très rapidement, en fait, j'ai voulu aller vers ce projet. Donc je me suis renseignée, je me suis entourée, j'ai demandé à droite à gauche des contacts, et puis c'était parti, j'ai investi beaucoup d'économies, et ça y est, c'était lancé. Et le 15 novembre 2020, donc lancement de ma plateforme, après une communication sur les réseaux sociaux, etc., le premier jour d'ouverture, j'ai 100 inscrits sur la plateforme, genre vraiment 100 pile, et je me dis ok, c'est surréaliste, vraiment j'y croyais pas. Et en fait, ça m'a vraiment, ça paraît comme ça dérisoire, tu vois, surtout quand on sait ce que ça va être par la suite. Mais en fait, quand tu me revois quelques années auparavant, enfin une jeune fille qui se lance comme ça sur les réseaux, qui n'a pas forcément de repères, qui fait un petit peu tout seul, etc., se dire « Ok, j'ouvre ma plateforme et j'ai 100 abonnés », c'est fou, quoi. Et en fait, ensuite, ça s'est fait vraiment naturellement. Là, c'était vraiment la période, comme je disais tout à l'heure, à moitié en salle, à moitié en ligne. Puis après, c'est devenu tellement prenant que je ne pouvais plus faire les deux. Mais voilà, en fait, ce nouveau déclic, en fait, finalement, d'avoir voulu vraiment continuer à pérenniser ce qui se passait au niveau des lives. Et par contre, tu as soulevé aussi quelque chose de très important, parce que effectivement, j'étais sur du complètement gratuit, du contenu complètement gratuit. Donc, j'ai donné énormément de valeur pendant des mois et des mois et des mois gratuitement, ce qui a fait tout monter finalement de façon très, très organique. Et je pense aussi ce qui a créé cette confiance très, très profonde finalement dans ma communauté et moi, parce que pour moi, en fait, c'était vraiment des limites, des noms et des messages et des commentaires que je voyais tous les jours. Donc je reconnaissais les prénoms, enfin on échangeait en DM, on parlait de la période, de comment on se sentait, niveau santé mentale, niveau santé physique, de nos progrès, de ce qu'on allait faire après, etc. Donc c'était très très puissant, et je crois que c'est ce côté extrêmement puissant, extrêmement humain, ces valeurs en fait extrêmement humaines, qui ont fait aussi peut-être le début de cette jolie aventure, qui en ont fait aussi le succès finalement, enfin en tout cas un certain succès. Et en ouvrant la plateforme, j'ai fait un petit peu l'erreur, entre guillemets, de laisser tous les replays des centaines de lives que j'avais donnés, parce que moi j'avais pas du tout cette conscience vraiment orientée business à l'époque, tu vois. Enfin, j'ai toujours mes valeurs humaines qui sont pour moi les plus importantes. De donner de la valeur gratuitement, je trouve ça super important, mais c'est aussi important finalement d'être rémunéré pour tout le travail qu'on accomplit, évidemment. J'avais pas trop cette vision à l'époque, ou du moins je savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Et en fait, quelques mois après l'ouverture de ma plateforme, quelqu'un m'a conseillé justement en me disant « Mais tu sais, Anouk, tous ces lives gratuits que tu laisses à dispo, tu sais que les gens les font encore. » Et je me suis dit, mais non, c'est impossible, ça fait des mois et des mois, c'est impossible. Et un jour, j'ai pris la décision, j'ai annoncé sur Insta, je l'ai prévenu, j'ai dit, bon, bah, tous les lives qui sont dispo, je vais les mettre sur la plateforme, parce que vous savez, maintenant, j'ai créé cet outil, et en expliquant tout le travail que c'était, et tout ce qu'ils allaient pouvoir aussi voir sur cette plateforme, qui était en plus beaucoup plus élaborée finalement que des simples lives sur Insta, où c'est beaucoup moins qualitatif, etc. Et ce jour-là, justement, ça a fait... déjà, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais j'adorais ce live-là, tu pourras le remettre, je t'en supplie, parce que je le faisais tous les jours, je l'aimais trop et tout. » Donc déjà, hyper, hyper halluciné, en fait, finalement, que les lives continuaient de vivre limite des mois après. Et effectivement, très justement, le jour où je les ai supprimés, j'ai eu un énorme boom d'abonnés sur la plateforme. Donc comme quoi, parfois aussi, il faut prendre ce genre de risque et savoir aussi monétiser son contenu et savoir faire... ce transfert en jouant la carte aussi de l'honnêteté et d'expliquer aussi tout le travail qu'il y a derrière.
Ouais, complètement. Je te rejoins à 100%. D'ailleurs, je remarque du coup, vu que c'était le 15 novembre 2020, il y a de ça 6 jours,
oui.
tu fêtais tes 3 ans
du coup. Exactement.
De lancement. Félicitations. Et 3 ans plus tard.
Merci beaucoup.
3 ans plus tard, en termes de chiffres d'envergure, on a évoqué tout à l'heure 3000 membres actifs, tu parlais d'une équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le chemin parcouru en 3 ans, pour qu'on se rende compte aussi, celles et ceux qui nous écoutent, que derrière tu évoquais le fait que oui, c'est quelque chose d'important pour toi, que de l'avoir de l'impact, que de pouvoir aider les gens qui te suivent, transformer leur vie par l'intermédiaire du sport et avoir un impact pas que sur leur corps, mais aussi sur leur esprit. Mais qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres aujourd'hui d'un point de vue business aussi? J'ai d'autres questions par rapport à la méthode, par rapport à toi, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, mais j'aurais aussi un passage où j'aimerais qu'on parle business. Et pour poser le cadre, ça représente quoi aujourd'hui?
Alors effectivement, c'est une petite entreprise qui a finalement bien grandi et bien évolué. De toute seule, on est aujourd'hui 6, avec donc 6 full-time, avec en plus de ça des prestataires qui vont intervenir pour des missions bien spécifiques, pour des besoins bien particuliers. Donc effectivement, c'est surréaliste, j'aurais jamais pensé. J'ai fait tout toute seule à peu près sur la première année, je dirais, en étant épaulée, conseillée par contre par des proches, par des gens peut-être autour de moi qui étaient de bons conseils, mais ça restait vraiment plus de l'ordre du conseil oral, etc. Il n'y avait pas de vrais engagements financiers de la part de l'un et de l'autre. Et j'ai recruté une première personne qui s'occupait un petit peu plus de la stratégie business, qui travaille plus avec nous aujourd'hui, mais qui a vraiment permis de poser les bases et de faire grandir l'entreprise. La deuxième personne que j'ai recrutée, c'était une social media manager qui travaille toujours avec moi aujourd'hui, qui est incroyable et qui est vraiment mon bras droit en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a plein d'autres personnes quelques personnes qui se sont greffées à cette entreprise. Et c'est génial parce qu'on a constitué une superbe team step by step et je me suis vraiment rendu compte du pouvoir d'être bien entourée et que recruter c'était un sacré challenge, que manager c'était un sacré challenge, c'est plein de choses que j'ai vraiment appris sur le tas en faisant beaucoup d'erreurs mais vraiment en apprenant et pour le coup moi j'ai pas d'ego mal placé, tu vois, j'ai vraiment aussi envie de me remettre en question et d'apprendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir en tant que personne et pouvoir faire grandir mon business évidemment. Donc effectivement, on a plus de 3000 membres actifs, donc ça veut dire il y a plus de 3000 personnes qui sont inscrites et qui font Body by Anouk aujourd'hui de façon quasi quotidienne. Nous, on est très très actifs sur le partage de contenu, donc je tourne et je publie de nouveaux cours et de nouveaux programmes de façon ultra ultra régulière. Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans. Donc la bibliothèque aujourd'hui, c'est plus de 300 cours et plus de 20 programmes. Donc effectivement, c'est énormément de valeur qui est complètement, amené vraiment de façon ultra régulière. Beaucoup d'investissements dans les tournages, dans les lieux de tournage. J'ai tourné un petit peu aux quatre coins du monde, si tu veux, parce que j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager. Et ça fait partie aussi finalement de la dimension bien-être 360. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de coûts, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent investi, beaucoup de temps, beaucoup de prise de risque. Tout le côté aussi technique, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais avoir une app, avoir un studio en ligne qui abrite de la vidéo, de la bande passante et des centaines d'heures de bande passante, c'est des choses qui valent beaucoup d'argent, mais c'est c'est essentiel et c'est ultra important pour moi de réinvestir énormément de bénéfices finalement qu'on fait puisque j'ai envie vraiment que ça continue de grandir, que ça continue de toucher un maximum de personnes. On est leader là au niveau du Pilates en France et j'ai envie que on cherche vraiment encore plus finalement au niveau de la francophonie, même qui sait un petit peu plus loin vu que je parle anglais, mais bon ça serait encore un autre sujet parce que là c'est aller sur la concurrence des gens qui parlent anglais c'est encore autre chose. Mais on a voilà un petit peu le fonctionnement,
ouais.
Et ce que ça représente.
Super, bravo pour ce qui a été mis en place. Je rebondis sur deux sujets. Un que je vais évoquer dans juste un instant, qui m'a fait tilt par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et un autre que j'ai pu percevoir dans un interview d'une personne qui nous a mis en relation, qu'on connaît bien, qui est Justine, qui est aussi passée sur le déclic. Jutoun, pour ceux qui veulent...
Tout à fait, on l'embrasse.
Voilà. Et dans cette interview, tu évoquais le fait que tu avais une relation à l'argent qui n'était pas un problème. Aujourd'hui, effectivement, on constate en francophonie, je le dis souvent dans des podcasts, je prends peu de risques en l'évoquant parce que ceux qui nous écoutent pour la plupart me connaissent. En France, je trouve qu'il y a un niveau d'hypocrisie qui est relativement important avec l'argent et la réussite. Ouais. Tout le monde veut réussir, mais tout le monde critique la réussite. Personne n'ose l'assumer.
Absolument.
Tout le monde veut de l'argent, personne n'ose l'assumer. Et beaucoup de gens ont malheureusement un problème avec l'argent. Et tu évoquais le fait que ça venait peut-être de ta double nationalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce concept de rapport à l'argent, d'autant plus que tu es une femme. Et moi, j'ai eu l'opportunité de former, de coacher des centaines, si ce n'est pas des milliers de femmes également au sein de nos clients, de manière directe ou indirecte. C'est vrai que souvent, il y a un dénominateur commun auprès des femmes. Déjà, un point positif, c'est qu'elles ont moins cette énergie de feu qu'ont les hommes et donc elles vont réfléchir à deux fois avant de passer à l'action bêtement, comparativement à nous parfois. ça, c'est un point positif. Mais il y a un petit inconvénient parfois, c'est que justement, cette fougue que nous, on pourrait avoir davantage ou même trop parfois, encore une fois, elle est aussi liée à des peurs, à des croyances et très souvent liée à l'argent. De par, par exemple, tu vois, argent, c'est directement corrélé à insécurité. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout est corrélé à l'argent. Finalement, ton pouvoir dans la vie et ta sécurité est lié à l'argent.
Bien sûr.
Dans quelle mesure, quels seraient les conseils que toi, tu donnerais à quelqu'un qui effectivement pense que sa relation à l'argent aujourd'hui n'est pas bonne et la freine dans sa croissance ou son développement, et qu'est-ce qui fait que, dans quelle mesure, toi, ça t'a aidé?
Bien sûr. Alors c'est vrai que moi, par rapport à justement, comme tu soulignais, cette double nationalité et peut-être cette vision un petit peu plus anglo-saxonne au niveau du modèle financier et du rapport à l'argent, j'avais peut-être moins de croyances limitantes et de barrières par rapport à ça. Par contre, comme tu l'as aussi très justement souligné, je crois qu'en tant que femme, il y a un petit peu des patterns qui sont ancrés, des schémas qui sont ancrés juste parce que ça flotte comme ça au-dessus de nous et que on n'apprend pas forcément aux femmes l'indépendance financière dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, on n'apprend pas véritablement l'indépendance financière à l'école, etc. Enfin, c'est quelque chose qui vient peut-être plus tard de par soit des parents, soit des proches, de par même soit nous, nos propres recherches, etc. Et moi, j'avais pas du tout de problème avec la vision de l'argent et vraiment aussi la volonté et l'ambition de vouloir créer une vie qui me passionne, une vie, un métier passion, une vie remplie par des activités qui me passionnent et qui me rapportent de l'argent. Et aussi pas de peur de me dire j'ai envie d'être à l'aise financièrement parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de voyager, j'ai envie de ne jamais être limitée dans ce que j'ai envie de créer. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment dès mon plus jeune âge parce que j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à 16 ans, sans que ça soit une obligation de par mes parents, sans que ça soit un besoin, par exemple, comme ça peut l'être chez certaines familles parce que voilà, il y a besoin de mettre du beurre dans les épinards, entre guillemets. Moi, c'était vraiment une volonté de ma part. Donc, j'ai commencé plein de petits boulots, dès 16 ans. J'ai fait vraiment tout ce qui est possible à cet âge-là. Enfin, ça peut être babysitting, hôtesse, machin, plein plein de trucs. Et j'ai commencé en fait tout timidement à créer cette indépendance financière dès cet âge-là. D'ailleurs, ça a été, sans que je le sache, une action hyper judicieuse puisque ça a commencé à créer mon petit pécule qui a pu me permettre ensuite d'investir dans mes propres projets. Donc par exemple, ma plateforme que j'ai créée des années plus tard mais qui n'aurait pas vu le jour si j'avais pas des fonds à investir pour tous ces projets. Et par contre, effectivement, j'avais vraiment des barrières par rapport au montant. C'est-à-dire que je me disais, j'avais des sommes en tête et je me disais, voilà, si j'arrive en fait à gagner à peu près ça par mois, bah, je pense que je serai à l'aise et je pense que je serai très, très heureuse, que je pourrais faire les voyages que j'ai envie de faire, etc. J'avais pas vraiment une vision, tout est possible finalement. Il y a pas de limite, il y a pas de seuil. Et c'est quelque chose qui s'est créé naturellement, de par aussi, bah, très honnêtement, le succès de ma plateforme. Quand certains montants, sont arrivés, ça a levé des blocages dans ma tête. Je me suis dit, OK, c'est incroyable, c'est surréaliste, mais en fait, non, c'est possible. Et c'est possible parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai pris des risques, parce que j'ai osé, et parce que je suis sincère dans ma démarche, parce que je suis passionnée. Et en fait, quand on travaille dur, parce que c'est pas une question forcément de talent ou de tomber dans la bonne famille ou de bien sûr, c'est des facteurs qui vont jouer. Évidemment, moi je suis pas, il faut être réaliste là-dessus. Mais par contre, vraiment en fait, le charbon, comme on dit, vraiment y aller, vraiment prendre les risques et aussi avoir fait aussi ces choix de mettre de l'argent de côté, d'avoir une vie assez pas du tout porté sur la consommation et vraiment plutôt sur l'économie, ça m'a permis aussi d'avoir tous ces fonds à investir. Et c'est quelque chose d'aujourd'hui que je retranscris dans ma façon de voir le business et dans ma façon de vouloir grandir. C'est-à-dire que on réinvestit beaucoup de ce qu'on fait pour continuer vraiment d'apporter de la valeur et continuer vraiment de grandir. Et après, je dirais que dernièrement, et parmi aussi de très belles rencontres que j'ai faites, notamment Justine et d'autres entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer, que ce soit à Paris, à Cape Town ou d'autres endroits. Ça m'a bien sûr levé aussi certains blocages et certaines méconnaissances par rapport à mon rapport à l'argent, parce que c'est aussi forcément l'entourage qui va nous amener des connaissances à ce sujet et nous faire progresser là-dessus. Donc ça a été vraiment un mix de toutes ces choses, de choix personnels, de recherche personnelle, de travail sur moi aussi, de croire en moi, de croire que on peut faire plus, on peut y aller, et de ces belles rencontres et de continuer. Et je dirais que maintenant, au-delà du sport, du fitness, du bien-être et vraiment de cette mission première qui est d'apporter le bien-être à un maximum de personnes sur cette terre et vraiment de le désacraliser, désacraliser la santé mentale, désacraliser la santé physique, que tout ça, c'est vraiment à la portée de tous, parce que j'insiste vraiment dessus, parce que il y a trop ce mythe de le sport c'est pour les autres, le sport c'est pour les gens qui ont le temps, le sport c'est pour les gens qui ont de l'argent ou je ne sais quoi, mais en fait vraiment la santé en fait c'est la première chose, enfin avant de parler d'argent, avant de parler de business, avant de parler de tout, la santé c'est vraiment le truc qui va t'accompagner pour toute ta vie et qui va pouvoir te permettre de prendre toutes les autres décisions de ta vie dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment hyper hyper important. Et donc au-delà de cette mission et de cette et de ce travail que je fais quotidiennement, je me suis découvert une nouvelle passion qui est bien évidemment pour l'entrepreneuriat. Et de Body by Anouk, qui est cette plateforme wellness, découle d'autres projets entrepreneuriaux. Et en fait, j'ai cette passion aussi de pas forcément faire de l'argent pour faire de l'argent, parce que je dirais que mes valeurs humaines sont les premières. Mais tu vois, peut-être que ce que je suis en train de dire, t'es en train de reconnaître des patterns que les femmes ont de devoir se justifier parce qu'elles ont envie finalement de faire de l'argent. Donc je retiens un petit peu ce que j'ai dit parce que du coup, j'ai fait un peu cette erreur en quelque sorte. Mais j'ai vraiment cette vision d'être passionnée par l'investissement. J'essaye d'apprendre, j'essaye de me renseigner. Et je me rends compte qu'il y a 1 milliard de choses possibles à faire et de façon de vraiment grandir en termes d'indépendance financière. Et j'ai envie de plus en plus d'aller vers ça. Et en fait, cette première porte vers l'entrepreneuriat m'a aussi ouvert plein d'autres portes au niveau de la liberté financière et de tous ces blocages à lever. Et j'en suis vraiment qu'aux prémices, mais c'est quelque chose que je travaille énormément et qui est très intéressant comme travail personnel.
Merci pour ça. Et tu évoquais rapidement le fait que tu aies pu avoir des fonds pour te lancer et démarrer l'activité et investir justement dans ce projet. En termes de fonds, qu'on se rende compte, ça a nécessité combien de fonds, de ressources financières pour démarrer ?
Bien sûr, alors il y a eu plein de paliers, tu t'en doutes, mais une plateforme custom avec les apps brandées qui vont avec, avec toutes les heures de bande passante, etc., ça représentait un premier investissement à peu près autour de 40 000 euros. Donc ça peut paraître énorme pour certains, ça peut paraître dérisoire pour d'autres. Notre échelle par rapport à l'argent est évidemment à tous très différent, mais effectivement, c'était des énormes risques puisque c'était des énormes, comment dire, économie à prendre sur tout ce que j'avais réussi à amasser timidement avec tous les petits jobs que j'avais pu faire. Mais effectivement, c'était un pari risqué mais réussi et je suis très 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 contente d'avoir eu un peu tous ces smart moves finalement qui m'ont permis de créer ça et d'avoir ces fonds à dispo pour pouvoir créer aussi tout ça. Et c'est vraiment pour le coup mes sous, il n'y avait pas papa maman, il n'y avait pas tout ça.
Ouais, bah félicitations parce que moi-même ayant démarré de zéro, je sais ce que ça représente d'accumuler une grosse somme d'argent et pour ma part c'était pas autant et c'était déjà assez compliqué de les réunir, pas forcément de les investir, mais de les réunir. Un autre point, tu évoquais tout à l'heure le fait que selon toi, les gens ont parfois plus peur de la réussite que de l'échec.
Tout à fait.
Je trouve que c'est un concept extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux bien développer selon ta vision des choses?
Ouais, absolument. En fait, je pense que on est malheureusement dans un système qui valorise, qui glorifie en quelque sorte l'échec et qui valorise aussi le fait de pas prendre de risques, le fait d'être un petit peu dans son voilà, dans ton chemin à toi, tu fais ta petite route et tout se passe bien, il y a pas vraiment de pas à côté, pas vraiment d'initiative de prise, etc. Bon, je grossis un petit peu le trait, mais je dirais de façon générale. Et finalement, en fait, surtout malheureusement en France, même si pour le coup, moi j'adore la France, je ne veux pas non plus taper dessus pour, pour tout et n'importe quoi, mais on va dire qu'il y a quand même quelques schémas que l'on reconnaît à la France. C'est comme en quelque sorte normal de vivre un échec. En fait, ce n'est pas normal de vivre un échec, mais c'est comme normal de démarrer un projet, mais ça va rater, c'est sûr. C'est toujours un petit peu ce côté-là. Non, mais il vaut mieux pas que tu fasses ça parce que ça va rater. Et moi, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai beaucoup eu dans mon entourage. Et généralement, en plus, c'est un peu de la bienveillance très mal placée parce que les gens ont envie que tu te protèges, ils ont pas envie que tu rates, ils ont pas envie que tu te fasses mal, que tu perdes de l'argent peut-être. Mais moi, je me suis rendu compte aussi en creusant un peu le sujet que c'était pas forcément des gens qui avaient peur que tu rates, mais c'était peut-être aussi des gens qui avaient peur que tu réussisses. Parce que finalement, quand tu prends un risque, tu as deux choix. Soit tu vas rater, soit tu vas réussir. Et donc, quel est finalement le chemin le plus judicieux à prendre ? Soit tu fais rien et effectivement, soit tu rates pas, tu ne réussis pas, soit tu essaies, et peut-être tu rates, et peut-être tu réussis. Mais finalement aussi, à force d'échecs, c'est comme ça qu'on se forge en caractère, et c'est comme ça aussi qu'on finit par réussir. Et c'est quelque chose qui est très applaudi, justement, dans le système anglo-saxon, où on dit, bah, il faut 10 échecs pour réussir. Et généralement, à un entrepreneur, on lui dit, bah, t'es à ton combienième échec, à ton 6e, ah bah génial, continue comme ça, parce que le prochain, c'est pour toi, tu vas y aller, magnifique, incroyable. Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. Un échec, oulala, surtout arrête tout parce qu'on arrête le, on arrête les dégâts entre guillemets. Donc déjà il y a ce côté-là, vraiment pas avoir la peur de l'échec, mais aussi avoir la peur de la réussite, parce que réussir ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire qu'effectivement tu t'es mis sur le devant de la scène, ça veut dire que tu t'es mis à nu, ça veut dire que tu t'es peut-être vidé les poches, que tu t'es peut-être mis en grosse situation d'insécurité pour quelque chose auquel tu crois. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas très bien perçues dans l'inconscient général. En fait, de prendre toutes ces décisions, c'est pas très bien perçu dans l'inconscient général, parce que vouloir, pour X raisons, en fait, la réussite, ça peut être, comment dire, associé à plein de paramètres différents. Mais par exemple, vouloir être célèbre, vouloir avoir de l'argent, vouloir avoir les moyens de vivre la vie qu'on a envie de vivre, vouloir voyager, vouloir... je sais pas, pour certaines personnes peut-être avoir des belles voitures, des beaux sacs, moi c'est pas forcément mon sujet, mais je veux dire, ça peut être une envie, très bien. Et bah tous ces désirs-là sont un petit peu mal vus, c'est pas très français, c'est pas très, ou alors c'est pas que c'est pas très français, mais c'est peut-être même associé à de la vulgarité ou associé à du mauvais goût, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup j'ai cette sensation effectivement que les gens ont peut-être limite plus peur de la réussite que d'avoir finalement un échec qui de toute façon est prédit, parce que tu t'entreprends un truc, oui bon, tu vas sûrement rater, donc c'est prédit. Mais en fait la réussite, effectivement après il faut l'assumer, et puis il faut continuer finalement, parce que ça y est, t'es sur le devant de la scène, t'as réussi, qu'est-ce que ça veut dire, t'as réussi, et donc on t'observe, peut-être qu'on t'envie, peut-être qu'on te jalouse, peut-être, c'est des possibilités, donc peut-être que t'attires le mauvais œil si on y croit, et puis il faut encore plus porter tout ça, il faut encore plus assumer ce regard que peut-être les gens vont porter sur nous. Et c'est pas donné à tout le monde, en fait, de supporter toute cette charge mentale que ça va apporter, et supporter aussi tout ce travail que ça va demander, et de continuer ça année après année. Donc ouais, c'est un concept que je pense assez ancré dans l'inconscient général.
Complètement. Est-ce que, voyant l'ascension de ta présence sur les réseaux sociaux, la création de ton business, le fait que de plus en plus de gens, du coup, te fassent confiance, rejoignent, etc., tu as ressenti ça, une certaine type de, je vais pas dire de haine, mais peut-être même que tu as fait face à certains messages pas forcément élogieux, ou alors des haters, ou alors des gens jaloux ou envieux ou sceptiques par rapport à cette réussite fulgurante ?
Je pense que grâce au créneau dans lequel je suis, c'est-à-dire le wellness, avec aussi un discours extrêmement bienveillant qui est profondément sincère en plus, je pense que ça se sent. J'ai la chance de pas avoir trop subi ce genre de choses, contrairement peut-être à d'autres personnes dans d'autres domaines qui peuvent être peut-être plus attaquées de part et d'autre, parce que c'est plus facile, entre guillemets. Mais en revanche, bien sûr, il y a eu plein de petites choses. Pas vraiment des attaques frontales, mais des discours sous-jacents, des phrases lâchées par-ci par-là qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire, pas forcément dans mon entourage très proche, qui d'ailleurs comprend peut-être pas forcément à 100% ce que je fais, mais en tout cas qui est très présent, très bienveillant et sincèrement bienveillant, parce que c'est vraiment différent. Mais oui, évidemment, de toute façon, dès que tu commences à grandir, on m'a reproché d'avoir acheté des followers, on m'a reproché d'avoir acheté des articles, enfin tu vois, ce genre de choses très faciles en fait à dire, alors que bon, n'importe quelle personne qui a un outil pour vérifier des stats peut voir en deux temps trois mouvements qu'il n'y a aucun follower qui a acheté sur mon compte, et que encore moins du coup les abonnés sur ma plateforme, puisque c'est littéralement des gens qui acceptent de mettre leur carte bleue pour avoir accès à tous les cours que je leur donne. Donc clairement je leur fais pas faire ça avec le couteau sous la gorge, ce serait étrange. Mais oui, évidemment, il y a la réussite fait peur, la réussite effraie. Et puis dans le milieu du wellness, qui n'est pas forcément un milieu super développé en France et encore moins à Paris, Et je dirais qu'on est très peu en tant que coach à s'être lancé sur le digital et avoir réussi en fait à pérenniser notre activité post-Covid, parce qu'on est quand même pas mal à avoir surfé sur la période du Covid pour faire des lives, etc. Mais on n'est vraiment pas beaucoup à avoir continué de développer ça, avoir saisi l'opportunité, développer la plateforme et faire quelque chose de vraiment ancré qui ensuite peut te rapporter de quoi vivre et puis ensuite devenir ce que c'est devenu pour moi par exemple. On est très très peu. Et donc effectivement, quand ça a commencé à grandir, j'ai eu quelques profils qui m'ont bloqué, j'ai eu quelques petits messages. D'abord c'était très sympa, puis on voyait que le ton changeait de plus en plus, et moi un petit peu naïvement je comprenais pas trop pourquoi, et puis j'ai commencé à comprendre petit à petit. En fait c'est juste que, comme on le disait tout à l'heure, la réussite effraie, et les gens préfèrent, comment dire, ils préfèrent te détester ou ils préfèrent peut-être essayer de te faire dire ce qu'ils aimeraient entendre, que par exemple t'as payé pour avoir un certain succès, parce que ça les rassure, je pense, et parce que peut-être aussi ça les rassure sur le fait que eux n'aient peut-être pas forcément réussi, alors que tu vois, tout est une question de temps, de travail, de plein de choses, et je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut travailler, il n'y a rien qui s'invente. Et finalement, acheter des followers, bon, oui, si tu veux, peut-être, c'est pas mon cas, mais achète-en si tu veux, et ça va pas forcément non plus te bénéficier ton business, donc ce serait en plus pas très intelligent de ma part. Mais oui, je fais face à une légère haine, mais c'est trop fort, mais à des légers pics comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer, parce que je crois que plus tu grandis, plus tu en as. Après, les dramas, entre guillemets, de collégiens, je veux m'en rester très 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 éloignée. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît étrange, on bloque avec mon équipe parce que c'est pas possible, quoi.
Ouais.
Ce genre de choses, c'est pas possible.
Complètement, complètement. J'ai deux, trois questions concernant purement le business, l'entrepreneuriat. Mais avant ça, j'ai une dernière question concernant la méthode. Dans ta méthode, dans tes communications, tu soulignes vraiment l'importance de la bienveillance envers soi-même et de développer finalement une relation saine avec son corps et son esprit. Comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute d'intégrer ces principes dans sa routine sportive pour ancrer des résultats sains et durables, surtout parce que ce soit des hommes comme des femmes, on sait tous les deux, toi comme moi, que réussir à créer une routine, créer des habitudes, mettre en place un système disciplinaire pour faire en sorte que ça dure, c'est pas si simple. Ouais. Et pourtant, on en connaît tous les vertus. Quels seraient les différents conseils que tu donnerais à l'égard de ces sujets que je viens d'évoquer ?
Absolument. Alors, le premier conseil, c'est vraiment de se détacher de l'aspect esthétique. Ça, je sais que c'est pas évident et que la plupart du temps, on se met au sport parce qu'on veut changer physiquement. Mais je dirais que c'est vraiment le premier truc qu'on va changer dans notre tête, dans notre mindset. Parce que si tu vas à la salle de sport, si tu prends un abonnement pour faire du sport chez toi, si tu t'inscris à un cours de danse, je ne sais quoi, dans un studio à côté de chez toi, juste pour perdre du poids ou juste pour te trouver beau ou belle dans le miroir, ou bien à la plage cet été, ça va échouer, c'est sûr, ou alors ça va réussir, mais d'une façon très malsaine, très centrée sur l'aspect extérieur. Tu vas subir tes entraînements, tu vas subir ton sport, et tu vas pas du tout ressentir tous les bénéfices incroyables qu'une activité sportive très régulière va t'apporter. Donc il faut vraiment bouger pour les bonnes raisons, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps sur les réseaux. Il faut bouger parce que ça va t'apporter une nouvelle énergie, parce que ça va t'apporter le sourire, parce que tu vas te sentir plus confiant dans ta peau, parce que tu vas te sentir fort, puissant, parce que tu vas sentir mieux tout ce qui se passe autour de toi, parce que quand tu vas rentrer dans une pièce, tu vas prendre plus de l'espace, tu vas oser plus regarder les gens dans les yeux, pour toutes ces raisons-là, parce que tu vas pouvoir jouer avec tes enfants si tu en as, parce que quand tu vas partir en vacances, tu vas te sentir plus solide pour, par exemple, faire des activités avec tes potes. En fait, tout ça, c'est ce pourquoi on devrait bouger tous les jours. En fait, on est vraiment fait en tant qu'être humain pour être tout le temps en mouvement, et avec le modèle du 21e siècle, c'est un petit peu le contraire, on est de plus en plus sédentaire, et vraiment la sédentarité, le fait d'être en position assise répétée, ça tue, littéralement. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment une des causes de mortalité aujourd'hui. Il faut vraiment être un maximum en mouvement, et en fait ça va pas être compliqué, ça va pas être diabolisé, ça va pas être quelque chose lié à la souffrance, lié à à quelque chose vraiment de, je sais pas, de méchant, de dur, de... C'est un petit peu encore trop comme ça dans l'inconscient général. Et en fait, le sport, c'est une source de plaisir, déjà littéralement, parce que ça va libérer plein d'hormones du bonheur, que ce soit les endorphines, la sérotonine, etc. Donc vraiment, c'est une source de plaisir. Et puis, pour tous ces bons côtés-là que ça va t'apporter, le fait de te mettre en mouvement, c'est une source de plaisir. Donc vraiment, voir le sport comme un moment que tu t'accordes à toi, qui est un moment plaisir. Et en plus de ça, en voyant, en appréhendant le mouvement de cette façon-là, la transformation physique qui était peut-être ta motivation première va se passer et de façon saine et durable. Parce que se buter à la salle de sport, excuse-moi pour le vocabulaire, mais ou autre, de façon hyper drastique, hyper... Oui, tu vas peut-être faire une transformation physique, mais est-ce que tu vas développer un amour pour le sport? Est-ce que tu vas développer un amour pour la discipline? Parce que la discipline, en fait, ça a été trop amené comme un concept négatif. Mais en fait, la discipline, c'est positif, puisque c'est avoir assez de respect et d'amour envers soi-même pour justement persévérer à faire une activité sportive très très régulière, parce que littéralement, il faudrait bouger tous les jours. Après, on voit, bien sûr, on adapte avec le programme qu'on a, les obligations qu'on a, donc je dirais 3 fois par semaine, c'est déjà un très très bon début, quelque chose qu'on peut maintenir dans le temps, etc. Donc déjà ce premier conseil-là, bouger pour les bonnes raisons. Et puis le deuxième conseil, c'est aussi pas forcément faire quelque chose parce qu'on a vu que c'était ça qu'il fallait faire. Donc pas forcément aller à la salle de sport parce que c'est ce que tes inspirations peut-être sur les réseaux font, pas forcément faire du pilates parce que c'est ce que la fille que tu suis qui s'appelle Anouk te conseille. Vraiment chercher le truc qui te fait kiffer, il n'y a pas une façon de bouger, il y a 1 milliard de façons de bouger, et je dirais même que c'est pas parce que un jour t'es une gym girl que le lendemain tu peux pas être une pilates girl en fait. C'est pas parce que toi Alec peut-être t'adores aller à la salle que demain t'as envie de te mettre au triathlon, et c'est pas compatible. En fait on n'a pas non plus à s'ancrer dans un truc, à se mettre une étiquette, parce qu'il faut se mettre une étiquette pour absolument tout ce qu'on fait. Tu fais du sport, tu bouges ton corps, et tu peux bouger de façon plein de... 1, 2, 3... Tu peux bouger de plein de façons différentes. Et écoute, si c'est de la Zumba, si c'est de la danse, si c'est plein de trucs, si c'est de la muscu, c'est trop cool. Faut trouver ton truc à toi qui te parle. Et puis, voir aussi, je dirais, comment dire, pas forcément voir le sport comme quelque chose qui doit être, je l'ai un petit peu dit au début, mais dans le sens au niveau de la question du temps, souvent c'est j'ai pas le temps. Mais en fait, t'as pas le temps. Peut-être, mais si tu fais 10 minutes, vraiment, t'as pas 10 minutes dans ta journée. Mais si tu fais 10 minutes tous les jours, cumulé le 6e jour, en fait, ça fait 1 heure, si je sais bien compter. Donc ça veut dire que t'auras fait 1 heure de sport cette semaine-ci. Et en fait, en faisant 10 minutes comme ça tous les jours, t'ancres le fait de bouger. Donc c'est quelque chose que ton cerveau, en fait, commence à comprendre. Et 10 minutes plus 10 minutes. Ok, la semaine d'après, peut-être... Ah, en fait, j'aime bien ce truc, donc je vais faire 20 minutes. Et en fait, le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui se travaille comme le reste. Enfin, la motivation, etc., tous ces concepts-là, ok, peut-être, mais en fait, le cerveau, concrètement, il va se travailler à force d'actions répétées. C'est la neuroplasticité, donc concrètement, vraiment, par le fait d'entreprendre des micro-actions quotidiennes répétées, le cerveau les comprend, les intègre, et ensuite... C'est ça roule, ça veut dire que c'est en toi. Donc n'importe quelle personne qui n'est pas sportif ou qui n'a pas le temps peut devenir sportif et peut avoir le temps, littéralement.
Complètement, complètement, je te rejoins, j'aurais pas mieux répondu et je te remercie pour tous ces conseils, appliquez-les au même titre que si vous l'avez pas encore fait, allez mettre les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je sais que Anouk l'a fait, donc si Anouk l'a fait... Faites-le. Je sais que elle va aussi mettre un avis parce que je sais qu'elle l'a pas encore fait. Par contre, du coup, allez.
J'y cours.
Voilà, cet épisode va sortir. On est le 21 novembre, va sortir lundi prochain. Donc, vous pouvez déjà aller sur votre plateforme préférée. Normalement, vous verrez l'avis d'Anouk. Comme ça, vous serez inspiré par son avis. Plus sérieusement, du coup, passons à la partie un petit peu plus business, même si on a pu l'évoquer déjà. Et je t'en remercie. Aujourd'hui, tu as plus de 3000 membres actifs. Avec ce succès quand même relativement rapide, hein. Tu fêtais il y a de ça quelques jours tes 3 ans de cette activité que tu as lancée, c'était ta première activité entrepreneuriale. J'imagine que, enfin, je suis certain même que tu as dû faire face à certains challenges, certaines peut-être même erreurs que tu as mis en place, certains problèmes qui paraissaient insurmontables, certaines désillusions peut-être, déceptions, je ne sais pas. Bref, différents challenges finalement que tu as dû aborder pour maintenir la croissance, maintenir la qualité de ton service, maintenir aussi le fait d'avoir un business avec lequel tu es aligné, et je ressens que c'est quelque chose d'important pour toi malgré l'expansion de ton entreprise. Est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3 choses qui répondent à ces critères que je viens d'évoquer, que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent, qui typiquement font peut-être face actuellement à une forte croissance ou qui, je le souhaite, je l'espère, eh bien, vont y faire face.
Ouais, tout à fait. Je dirais que un des plus gros challenges que j'ai eu durant ces 3 ans et notamment récemment, c'est le recrutement et savoir bien s'entourer. J'ai fait vraiment cette erreur de travailler avec des gens qui m'étaient soit recommandés à travers des contacts amicaux, soit vraiment directement travailler avec des amis. Et pour le coup, c'est quelque chose que je recommande pas du tout, et non pas parce que vos amis sont des incompétents et sont méchants, pas du tout, c'est juste que dès qu'il y a de l'affect, en fait, il y a des choses qui rentrent en compte dans le milieu du travail qui ne devraient pas rentrer en compte et qui vont amener beaucoup de problématiques au quotidien qui peuvent être évitées tout simplement si on travaille avec des gens qui sont au départ des inconnus, parce que tout reste plus cadré. Donc ça, c'est vraiment une erreur, moi, que j'ai faite et j'ai appris. Et donc, par la suite, de créer un process de recrutement vraiment développé. Et même si au début, on n'a pas forcément envie de perdre du temps avec ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai un petit peu bâclé à certains moments, parce que bah, mon cœur de métier, c'est vraiment créer les cours, créer tout le contenu qui est à côté, créer de la valeur et puis continuer l'extension de la plateforme, etc. Donc, ça me demande beaucoup de temps et j'avais pas forcément du temps à accorder à créer un process de recrutement. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des erreurs de prendre toutes ces décisions, parce que du coup, ça fait beaucoup de gens avec qui tu travailles peut-être 2-3 mois, puis finalement ça s'arrête, donc tu repars dans un process, et en fait ça fait perdre du temps et l'énergie à tout le monde. C'est dommage, voire peut-être même les amitiés en pâtissent, donc c'est dommage. Donc vraiment travailler son process de recrutement et ne pas avoir peur finalement, c'est peut-être quelque chose aussi d'un petit peu plus féminin, tu pourrais me dire, mais de pas avoir peur en fait d'être assez dur dans ce process de recrutement, parce que finalement moi j'avais beaucoup trop ce côté... Bah, ces valeurs, en fait, tu vois, de bienveillance et d'empathie qui me sont ultra, ultra chères, que j'appliquais peut-être à trop de parts de ma vie. Et en fait, on peut être extrêmement bienveillant, mais savoir aussi absolument ce qu'on veut. Et tu vois, moi, je suis très, très exigeante avec moi-même, que ce soit dans mon travail, dans mon sport, dans mon hygiène de vie, sur plein d'aspects. Et je suis très exigeante avec les personnes avec qui je travaille, parce que si je suis exigeante avec moi, si je suis exigeante avec mon business, forcément, c'est aussi quelque chose que je vais appliquer aux gens avec qui je travaille. Et puis en plus, j'ai envie qu'on crée quelque chose de beau, de bien. Donc, c'est normal, je pense, en tant que peut-être leader de son business, d'avoir des exigences, parce que finalement, qui va les avoir sinon? Et j'avais peut-être un petit peu peur dans mes process de recrutement d'assumer vraiment, en fait, ce que je voulais, les besoins vraiment que j'avais, de poser les vraies questions que j'avais en tête et d'arrêter un petit peu de les enjoliver pour peut-être pas faire peur ou je sais pas trop. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc je dirais que ça touche au recrutement et ça touche aussi au management finalement. Parce que moi j'ai pas fait d'école de management, etc. Bon, je fais de la com, mais on est loin quand même du management. Et ça s'apprend vraiment, c'est un vrai savoir. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui sera un de mes challenges à venir si ça continue de croître comme ça l'est aujourd'hui, mais de vraiment du coup recruter quelqu'un qui a ce rôle de manager, parce que je me rends bien compte que c'est extrêmement important et qu'on peut pas être partout. Et donc ouais, ça c'est un des gros challenges passés et une du coup des erreurs qui m'a fait perdre temps, argent, énergie, je dirais. Et bah du coup ça va avec bien s'entourer et pas forcément prendre les conseils à droite à gauche, mais aller chercher les conseils vraiment chez les gens qui sont réellement concernés. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que Justine m'a appris, que j'ai trouvé ultra juste, donc je me permets de la citer ici. Mais elle m'a dit, prends des conseils seulement de gens qui ont accompli les choses dont ils parlent, dont ils se vantent ou dont ils disent qu'ils ont réalisé. Et en fait, elle a tout à fait raison, parce que on va dire dans certains sujets, parce que ça peut pas forcément s'appliquer partout, mais en fait, c'est quelque chose que je faisais pas forcément. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça changeait beaucoup de choses d'avoir des gens réellement compétents pour t'épauler sur des questions auxquelles tu n'as pas les réponses.
Ah oui, c'est le jour et la nuit, complètement.
Ouais.
Très bien, très intéressant. Il y a un autre sujet aussi, c'est que tu évoquais le fait que vous avez été plusieurs à surfer sur cette vague d'opportunités pendant la phase Covid où tout le monde était chez soi et on faisait des lives, mais que seuls quelques-uns d'entre eux, dont tu fais partie, ont su rester après cette vague et construire quelque chose de solide. Selon toi, qu'est-ce qui fait que contrairement à d'autres, toi, tu as pu rester, tu as construit quelque chose de solide et qui plus est, plus que solide, vu que vous êtes les leaders dans votre domaine.
Je dirais que c'était vraiment la ténacité, la persévérance, le fait de croire profondément en son projet et de pas se laisser d'autre choix que de réussir, ou du moins de pas se laisser d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Moi, j'avais vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Déjà, je voyais pas d'échec possible, dans le sens que j'avais pas cette vision de ce que ça allait devenir, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mon projet, je voulais voir ma plateforme naître, je voulais donner des cours à travers cette plateforme, j'avais vraiment envie de développer cette méthode, de développer cette vision du bien-être, et vraiment d'aller l'apporter au plus grand nombre, c'était vraiment ancré. Puis je dirais qu'il faut faire les choses aussi pour les bonnes raisons. Ça dépend bien sûr des business, ça dépend des milieux dans lesquels on est, mais en tout cas dans le milieu du wellness, je crois que c'est vraiment primordial de faire les choses pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas forcément avec un but de faire de l'argent en premier. Je crois que c'est peut-être quelque chose qui a pu faire peut-être échouer certains, parce que j'ai donné tellement de valeur en fait gratuitement avant de passer sur un service payant, qu'il y a aussi quelque chose peut-être de récompense naturelle où les gens reconnaissent aussi peut-être le travail, tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été donné, et sont heureux de suivre finalement la personne dans son projet. Et puis je dirais aussi que j'ai pas lâché, vraiment j'ai pas lâché, j'ai continué de grandir, j'ai continué d'apporter tout ce que je pouvais sur les réseaux, j'ai essayé de me diversifier dans les canaux de communication, j'ai essayé de toujours aller chercher de nouvelles idées de cours, toujours me former en permanence, je commence des nouvelles formations tout le temps pour vraiment apporter de la valeur variée à travers mes cours, et puis ouais c'est ça aussi, se diversifier, et puis aussi je crois que cette approche profondément humaine, alors qui est peut-être plus difficile aujourd'hui parce qu'on a vraiment grandi, mais qui est vraiment l'essence de Body by Anouk. Donc la sincérité est vraiment maître de l'humain. La façon dont je donne les cours aussi, c'est vraiment je tutoie les gens, je fais des blagues, je fais vraiment comme si j'étais avec eux là dans la salle et qu'on se portait ensemble à travers l'énergie pour vraiment passer un bon moment. Vraiment passer un bon moment, c'est super important. Je crois que c'est toutes ces valeurs, toutes ces visions, toutes ces envies en fait qui ont fait que ça s'est pérennisé et que je me suis peut-être aussi positionnée du coup en leader au niveau du Pilates. Et aussi, bah, après, c'est une question de, comment dire, de tendance en quelque sorte, mais le Pilates, c'est très nouveau en France, donc j'ai aussi saisi cette opportunité. On est sur une grosse trend actuellement sur le développement du Pilates, que moi je connaissais depuis des années, que j'adorais profondément, mais qui est très nouveau, et donc forcément, ça interpelle aussi beaucoup de gens. Donc c'est aussi savoir saisir une opportunité en quelque sorte. Et voilà.
Merci pour ça, et je rebondis sur un des éléments que tu as évoqué qui était ma question suivante, c'est que finalement quand tu grandis aussi vite, sachant qu'un des éléments qui fait ton succès c'est aussi la proximité, le lien personnel que tu as su engager avec ta communauté, avec tes membres, tes participants et tes clients, quelles sont les choses que tu as mis en place pour garder cette proximité malgré l'augmentation du nombre de clients, de participantes, parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Alors j'ai bien compris que tu as structuré, tu as délégué, etc. Mais est-ce qu'il y a une dynamique que tu arrives à mettre en place ? Dans mon cas par exemple, et je l'assume complètement, je le dis souvent dans certains podcasts, voilà, c'est pas moi forcément qui écris mes posts LinkedIn, je les vois pour certains. Je ne sais même pas ce qui se publie sur mes réseaux sociaux type Instagram ou autre. TikTok, j'en parle même pas parce que j'ai pas l'application. YouTube, le podcast est quasiment délégué totalement, ça me prend 4 heures par semaine lissées sur l'année, incluant donc les tournages comme là on est en train de faire. Donc j'ai cette chance d'avoir structuré la chose, mais pour autant je me concentre que sur ce que j'ai besoin, et dès lors que j'ai un petit moment, je suis le premier à aller regarder les commentaires, regarder Instagram, regarder ceci ou cela, parce que je sais aussi que j'en suis là où j'en suis grâce à la communauté qui me fait confiance. Mais dans ton cas, qu'est-ce que tu as mis en place comme process qui fait que malgré ce succès, tu arrives à garder cette authenticité et cette proximité?
Ben justement, je dirais que je suis face à un challenge pour le coup, parce que c'est vraiment essentiel pour moi et c'est difficile du coup de déléguer certaines choses, et j'ai vraiment du mal à déléguer et à lâcher prise sur pas mal de choses en fait qui font partie de mon business, ce qui fait que ça me prend beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est vraiment du coup mon goal d'arriver à déléguer de la façon dont tu viens de le citer, parce que j'imagine aussi que niveau charge mentale ça te soulage de beaucoup de choses, donc c'est vraiment un de mes objectifs d'aller vers ça, tout en mettant bien sûr en place des process pour rester très proche de la communauté, parce que comme tu l'as compris, bah, c'est une de mes valeurs premières. Moi aujourd'hui, pour être tout à fait transparente, il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire que à tout moment, on me pose des questions ultra personnelles et je fais des vocaux à la personne pour lui expliquer par A plus B qu'il faut pas qu'elle fasse ça dans son sport, etc. parce que sinon ça va pas le faire et tout. Donc c'est en train de se créer, mais la proximité est très 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 présente. Je suis très, voire trop disponible, mais ça me touche beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir de recevoir vraiment des dizaines et des dizaines de retours par jour. Des partages d'histoires, des partages de résultats, des partages de transformations, des partages de déclics envers elle-même. Je vais parler au féminin parce que pour le coup aujourd'hui c'est vraiment quasi full féminin. Donc c'est très délicat finalement de déléguer cette extrême proximité et ce partage très 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 profond parfois à quelqu'un d'autre, même si, alors aussi en toute transparence, on est plusieurs à avoir accès à mes messages privés sur les différents réseaux sociaux, et je suis bien sûr épaulée, le SAV est délégué, etc., etc., bien évidemment, heureusement, parce que sinon je pense que je deviendrais folle, mais c'est vraiment un challenge, et c'est quelque chose que je vais devoir travailler, puisque c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va... ma croissance va aussi en dépendre, parce que, comme tu le disais, c'est hyper important d'être dédié à ce pourquoi on est le meilleur. Donc moi, en l'occurrence, c'est donner des cours. Et je sais que lorsque j'ai mon énergie complètement disponible à la création de mes cours, bien évidemment, ils vont être meilleurs que lorsque j'ai plein d'autres choses à gérer dans ma journée et dans ma tête. C'est juste logique, on n'est pas des robots. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser et à placer. Et bah, tu vois, cette conversation me fait vraiment réfléchir à ce sujet. Donc merci pour ça.
Avec plaisir. J'ai deux dernières questions à te poser, mais jusqu'ici, je tiens à te remercier de toute la valeur qui a été délivrée et puis aussi la transparence dont tu as fait part. Parce que souvent, effectivement, dans ces industries ou autres, j'ai l'impression des fois, on culpabilise presque de la partie business et du fait de monétiser son audience. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter, parce que je savais que tu avais cette ouverture d'esprit. De pouvoir aussi partager les choses et d'en parler simplement et clairement. D'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, encore une fois, mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et on mettra les liens de Anouk directement sous l'épisode, que ce soit Instagram ou autre, et puis vous pourrez aller découvrir son travail, qui elle est, et faire un cours de pilates sur la plateforme, par exemple, si ça vous tente. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est que j'en parlais justement avec notre amie commune. Il me semble que tu l'as évoqué aussi dans l'interview, sauf erreur, que tu avais fait avec elle. Il y a un moment donné où tu as traversé une période de stress quand même relativement intense et suivi même une thérapie pour guérir de certains schémas. Comment cette période de ta vie qui était quand même assez spécifique et challengeante, c'est le mot que je cherchais, t'a aidé à gérer le stress et à évoluer aujourd'hui tant sur le plan personnel et professionnel? En gros, qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ces challenges et également dans quelle mesure aujourd'hui ça te permet d'être la femme que tu es et de pouvoir avancer comme un bulldozer dans tes différents projets?
J'aime bien la comparaison finale, je me vois un peu comme ça. Écoute, effectivement, je l'ai pas vu vraiment venir, pour être tout à fait honnête, parce que je me considérais pas comme quelqu'un de très stressé, de très angoissé par la vie et par les défis que la vie peut apporter. Je suis assez même, je me pensais du moins assez assez stoïque par rapport à tout ça, parce que il m'est arrivé pas mal de défis durant ma courte vie pour le moment, mais tout se passait plutôt, enfin tu vois, je prenais les choses avec pas mal de recul. Et puis il y a eu un moment effectivement où il y a eu comme une sorte de chamboulement en fait extrêmement positif de par tous ces changements professionnels et tout ce nouveau succès, cette nouvelle carrière en quelque sorte, tout ce qui se passait à 1000 à l'heure, et en fait j'ai été prise dans un tourbillon d'émotions, dans un tourbillon de charge mentale, où il y avait cette plateforme, cette aventure, tout ce qui était en train de se passer, tout ce qui était en train de grandir, très vite, un petit peu parfois hors de mon contrôle, et en même temps ce grand besoin aussi d'avoir un total contrôle, parce que c'est ton bébé, c'est ton projet, donc t'as envie de faire les choses super bien. Puis t'as aussi ce contact avec les gens en permanence, donc tu t'exposes en permanence, donc forcément, en fait, t'as cette envie d'être irréprochable, peut-être en fait cette envie d'être parfaite, tu vois, et c'est impossible d'être parfaite. Et je me rendais pas compte de cette immense pression que je me mettais pour faire bien, parce que pour le coup, c'est quelque chose vraiment d'ancré aussi, j'ai envie de faire bien les choses. Et d'ailleurs, que ce soit pour apporter de la valeur gratuite ou du contenu payant, j'y mets absolument la même, comment dire, intention. Et je pense que c'est ce qui se ressentait d'ailleurs dans mes lives, mais tu vois, cette période de live sur Instagram, elle a été autant riche que épuisante pour moi, et je m'en suis rendu compte vraiment des mois après, que ça m'avait épuisée mentalement parlant, parce que je t'ai dit un live comme ça tous les jours, mais il y avait même des jours en fait où j'en enchaînais 5 par jour, à porter les gens, à ramener comme ça l'énergie à chaque fois, à reprendre. Et donc en fait ça a été une période très 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 riche, mais aussi le début d'un certain épuisement psychologique et peut-être même un petit peu physique, et ce qui a débouché aussi sur une mauvaise gestion du stress, je pense. Et puis finalement j'étais quand même relativement très jeune, donc pas forcément non plus d'expérience et de recul aussi sur ce qui compte vraiment et sur ce qui vaut vraiment entre guillemets d'être sous pression et non. Et ces périodes de stress, donc vraiment de haut stress vraiment des périodes longues, a conduit à un peu plus d'anxiété, un petit peu plus ancrée, ce qui m'a un petit peu gâché la vie pendant quelques temps, mais que j'ai eu la chance aussi de... En fait, j'ai vraiment eu cette volonté de directement travailler là-dessus, c'est-à-dire de pas ancrer des mauvais schémas en moi. Et aussi, je tiens à préciser que je pense que c'est chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être l'être, en fait, on veut trop ranger l'être humain dans une case ou dans une autre. Et en fait, l'être humain est plein de dualités, plein de contrariétés, non, c'est pas contrariété que je voulais dire, mais est plein de complexité. Et en fait, tu peux être hyper positif, hyper dynamique, hyper souriant, hyper vivre une vie de plein de belles choses en permanence. Et tu peux être aussi quelqu'un qui a des moments un peu plus sombres, un peu plus noirs, des moments de stress, des moments de peur, des moments de chute même, des moments de questionnement. Enfin, je crois que c'est vraiment le propre de l'être humain et que c'est hyper important de comprendre qu'on peut être tout ça à la fois et qu'on a besoin en fait de travailler sur l'équilibre entre toutes ces choses qui nous traversent, parce que c'est aussi comme ça qu'on va vraiment poser notre esprit, poser notre mental, reposer notre cerveau, reposer notre santé mentale. Et donc j'ai dû faire face à ces défis personnels pour pouvoir aussi prendre du recul, me mettre moins de pression et me rendre compte aussi que bah non, je sauve pas le monde, je suis pas sur le front médecin du monde, je ne sais pas quoi, à sauver des enfants. On respire et ça va très bien se passer. On fait du business, on vit de nos passions, c'est magnifique c'est magnifique ce qui s'accomplit. Et c'était un travail vraiment à faire, et je conseille à tout le monde de faire une thérapie, vraiment de pas en avoir peur, de pas avoir peur du mot, de pas avoir peur de ce que ça veut dire, parce qu'en plus une thérapie ça peut être vraiment plein de choses différentes, ça peut être aller voir un psy, mais ça peut être aussi, je sais pas, commencer la méditation, faire des exercices de respiration, ça peut être parler à un proche, vraiment la thérapie peut avoir vraiment beaucoup beaucoup de visages. Et je crois que c'est essentiel et que c'est encore trop peu mis en avant, que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, enfin que l'un ne va pas sans l'autre, et que c'est très très important, que ce soit quand tu es entrepreneur, parce que je pense que c'est encore peut-être plus bâclé dans l'entrepreneuriat, même si on commence à de plus en plus en parler, parce que les entrepreneurs font souvent face à des défis, donc peut-être des épisodes de burn-out, de dépression ou de moments un peu durs dans leur vie à cause justement de la charge mentale, mais je crois que vraiment tout le monde vit des moments très hauts et des moments très bas dans sa vie, et en fait qu'une thérapie ça permet juste de les évacuer quoi, de les comprendre, de les évacuer et que ça devienne pas une montagne, et c'est hyper important. Et ça a été très important pour moi de comprendre tout ça et de travailler dessus, et honnêtement je pense que je vais travailler dessus à vie, parce que il y a plein de rebondissements qui font que on a besoin vraiment de travailler en permanence sur soi, aussi au niveau de la santé mentale, et justement pas du tout qu'au niveau de son physique lorsque l'on fait du sport par exemple. Même si le sport peut aussi être vu comme une thérapie, bien entendu.
Complètement, complètement, je te rejoins, et moi le sport a transformé ma vie pour la petite anecdote, donc je te rejoins également. Dernière question que je pose du coup à chaque invité du podcast, question que tu connais, j'imagine.
Oui.
Du coup, merci pour tout ce que tu as partagé encore une fois, et j'aimerais que tu puisses nous partager ici un élément, un déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi que tu n'as pas partagé dans le cadre de cette interview et que peut-être tu n'as jamais partagé ailleurs. Ça peut être une citation, une simple phrase, une situation, une prise de conscience, un choc, positif ou moins, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Alors, j'ai réfléchi à la réponse que j'allais te donner et je me suis dit, ok, je vais oser, je vais partager quelque chose que j'ai jamais abordé, qui a été un très très gros déclic dans ma vie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'assez extrême dans tous les aspects de ma vie. Ça peut être extrême dans le bien comme dans le mal. Et j'ai eu une période de ma vie, alors j'ai toujours été cette personne extrêmement sportive, extrêmement portée sur le bien-être, sur l'alimentation, sur tout ce côté-là. Mais j'ai eu une période de ma vie aussi où j'ai beaucoup fait la fête. Alors ça va paraître vraiment surréaliste aux gens qui me connaissent qu'à travers Body by Anouk, mais j'ai été quand même une sacrée fêtarde à un moment donné de ma vie, tout en ayant en plus cette extrême dualité du coup, parce que j'étais hyper healthy, comme on dit, et en même temps hyper fêtard, ce qui va pas trop trop ensemble. Après, c'était aussi mes jeunes années, donc je pense que c'est normal aussi peut-être de chercher, d'aller tester aussi peut-être ses limites ou je ne sais quoi, de se comprendre. Je pense que ça fait partie aussi du process naturel de l'adolescence et de la création identitaire de ce qu'on va être après. Et en fait, il y a eu un moment, et ça a coïncidé vraiment avec la fin de mes années de communication, où j'ai eu cette espèce de déclic en me disant, parce que je parle toujours du déclic au niveau des études, mais ce déclic en fait il était vraiment 360 parce qu'il était vraiment aussi au niveau de ma santé, où je me suis dit, ok, en fait Anouk, tu fais n'importe quoi puisque tu peux plus être cette personne, tu peux plus être extrêmement fêtarde, tu peux plus faire la fête comme ça tous les week-ends et en même temps avoir une hygiène de vie irréprochable la semaine, vraiment poussée à son paroxysme où tu fais très attention à toi, très attention à ce que tu consommes, au sport que tu fais, etc. Parce qu'en plus j'étais un petit peu plus extrême à l'époque au niveau de mon sport, etc. Un équilibre que j'ai créé bien sûr par la suite. Et donc j'ai vraiment eu ce déclic de « c'est plus possible ». Cette dualité, c'est plus possible cette double personne que tu es, et ça a rejoint aussi ce qui se passait au niveau professionnellement, puisque c'était plus possible non plus ce mauvais choix, ce mauvais chemin que je faisais au niveau études, et puis si je continuais même carrière. Et donc j'ai vraiment eu un ras-le-bol et un « ok, j'arrête tout, tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est plus moi, tout ce que je ne veux pas être, je l'arrête ». Et je reprends, je réapprends, je me reconnecte à toutes mes vraies valeurs, à tout ce que je suis vraiment. J'abandonne en quelque sorte des démons peut-être, de tout ce que je ne suis pas, et j'y vais et je redeviens en fait qui je suis. Et je l'ai vraiment senti comme ça, comme une renaissance, comme une reconnexion à vraiment qui j'étais. Et ça a débouché en plus sur des choses magnifiques. Donc je crois qu'en fait, je souligne un truc très important, mais en fait c'est vraiment suivre son intention et surtout ne pas vouloir être quelqu'un d'autre juste pour fitter dans la société ou juste pour essayer d'être comme les autres et se reconnecter vraiment à tout ce qu'on est vraiment, parce que c'est comme ça en plus qu'on va pouvoir accomplir tous les challenges qui nous attendent, nous, en tant que personne.
Merci Anouk.
Merci à toi.